Il ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
L'Atlantide de Tchernobyl.
C'était une ville moderne, la plus belle ville d'Ukraine.
Le jour de l'évacuation, 50 000 habitants ont dû quitter la ville avec l'interdiction de prendre quoi que ce soit.
Il y a encore des gens qui travaillent ici ?
Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce que ça veut dire, Tchernobyl ?
Absinthe, l'herbe de l'oubli.
Et vous habitez encore dans la zone ?
Souvent, les gens me demandent pourquoi je suis restée.
Sonna la trompette et tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et le nom de cette étoile est Absinthe. Absinthe comme Tchernobyl. On peut appeler l'apocalypse à la rescousse et faire de l'événement d'il y a 30 ans une lecture de fin du monde. C'est peut-être évacuer la question des responsabilités de la catastrophe. La centrale de Tchernobyl s'appelait Lénine et constituait un fleuron d'un système politique qui était bâti sur la dissimulation. La zone interdite, qui depuis 1986 s'est constituée autour d'elle, est d'ailleurs devenue une sorte de musée du soviétisme où dans les villes abandonnées rouillent les vieux panneaux d'autrefois, réalisant les décisions du 27e congrès du parti. Mais il faut remonter plus avant. Cette région de l'Europe a connu tant de pogroms puis de massacres qu'elle a été appelée « terre de sang ». Pourtant, nombre de vieux habitants sont revenus dans les villages, malgré les consignes, sans doute pense-t-il, qu'en se maintenant sur sa terre avec dignité, on perpétue l'aventure de l'humanité. L'aventure de l'humanité peut-elle continuer ? Depuis, Fukushima est advenu un autre système, une autre histoire, et cette interrogation qui soudain excède les pauvres limites de notre histoire, si longue soit-elle, comment pouvons-nous poursuivre une aventure nucléaire dont les conséquences excèdent à ce point les paramètres de toute vie humaine ? C'est une question que je vais poser à Galia Ackermann, qui déjà hier était notre invitée. Elle nous parlait de Svetlana Alexeïevitch.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Galia Ackermann, bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas votre premier livre sur Tchernobyl, c'est le plus beau. C'est chez Premier Parallèle, Traversée, Tchernobyl. Une enquête de très longue durée, à tout niveau, depuis le bureau de votre camarade Gorbatchev, jusqu'à la zone interdite où vous avez longuement séjourné.
Absolument.
Sans prendre de précautions particulières.
Non, jamais.
Vous partagez la vie de ceux sur lesquels vous enquêtez ?
Je pense que c'est la seule façon d'avoir un discours franc. Les gens ont confiance quand vous vous mettez au même niveau que. Si j'arrive affublée d'un scaphandre ou d'un masque, ils vont pas me parler ou ce serait ridicule.
Vous avez émigré de l'URSS dont vous étiez sujette en 1973, êtes arrivée en France en 1984. Vous avez retrouvé avec cette enquête le monde de votre jeunesse comme vitrifié, avec une certaine colère, parce que vous n'aimiez pas le système soviétique, partout les mêmes meubles, partout les mêmes immeubles. Les hommes avaient, dites-vous, ça moi je ne savais pas, un seul type de caleçon.
Oui, il y avait un seul type de caleçon, c'est bien sûr anecdotique, mais il y avait juste deux couleurs, bleu foncé, assez laid, et noir. Et donc tout le monde était obligé d'acheter ça. En plus, des caleçons, franchement, pas très pratiques. Je ne veux pas parler trop de détails anatomiques, mais enfin bon.
Ça vous tapait sur les nerfs, hein, le monde soviétique ?
Ça me tapait sur les nerfs. Bien sûr, l'uniformité, l'humiliation constante aussi, parce que, vous savez, vivre dans la pénurie, c'est aussi une sorte d'humiliation. Mais puis, bien sûr, la censure, la répression, l'obligation de se conformer au dogme soviétique, de répondre aux examens, de passer l'examen du communisme scientifique à l'université, que j'ai d'ailleurs été la seule de toute ma faculté à avoir échoué parce que j'ai jamais compris ce que c'était.
Mais vous n'avez jamais vraiment lu les livres au programme, vous en lisiez d'autres, vous étiez de tempérament dissident. Vous avez dû admirer, vous n'étiez déjà plus en URSS, le film de Tarkovsky, le Stalker, qui date de 79, et qui se passe, écoutons-en un extrait, dans ce qu'on appelle la zone. Mais qu'est-ce que c'est que la zone ?
Nos bottes.
Et voilà, nous sommes chez nous.
Oui, Dom. Tiche, coq.
Quel silence.
Это самое тихое место на свете.
L'endroit le plus silencieux du monde.
Вы потом сами увидите. Тут так красиво.
Comme c'est beau.
Тут ведь нет никого.
Parce qu'il n'y a pas une âme qui vive.
Мы же здесь.
Et nous.
Trois types ne peuvent pas gâcher tout ça en un seul jour.
C'est à voir. Tout à fait faisable.
Curieux que ces fleurs ne sentent pas. Ou est-ce moi qui...
Vous ne sentez pas ?
Ce que je sens, c'est que ça pue le marécage.
C'est la rivière, elle passe tout près.
C'est extraordinaire d'avoir imaginé ça, jusque y compris la rivière, si importante, dans la zone de Tchernobyl.
C'est fait d'après un roman des frères Strugatsky, mais c'est vrai qu'il a donné une imagination pour décrire, ou montrer plutôt, cet espace qui est à la fois un espace confiné, mystérieux, dangereux, et en même temps, un espace de liberté. Et c'est exactement ce que représente la zone interdite.
Et c'est exactement ce que raconte votre livre, on va s'en apercevoir, à mesure qu'on y progressera. Alors commençons par la visite des agglomérations. La zone, c'est grand comme le Luxembourg. J'aime bien la comparaison que vous faites
c'est
avec
exactement.
Le Grand-Duché. C'est étrange, mais...
C'est exactement la même superficie. Je crois que Luxembourg a quelques kilomètres carrés de moins que la zone.
Et il y a une ville modèle qui est là, au nord-ouest de la centrale, qui s'appelle Pipriat. C'est la ville la plus jeune de l'URSS.
Oui, c'est une ville qui a été construite en même temps qu'on a commencé la construction de la centrale, au début des années 70, justement pour loger le personnel de la centrale et aussi les constructeurs. Parce que c'était une immense entreprise. Vous savez, cette centrale, en 86, au moment de l'accident, il y avait 4 réacteurs qui marchaient, mais en fait, 5 et 6 étaient déjà en construction. Et au total, il devait y avoir 12 réacteurs pour en faire... la centrale la plus puissante au monde, parce que bon, les soviétiques, ils voulaient toujours avoir des records, battre des records. Et donc, cette ville, elle était aussi censée s'agrandir, elle était aussi en permanence en construction. D'une part, il n'y avait rien d'extraordinaire pour ceux qui n'aiment pas en particulier l'architecture soviétique, parce qu'elle était ce qu'on appelle typique. Il y avait 3 ou 4 types de bâtiments qui étaient reproduits partout en Union soviétique, mais elle était large, elle était bordée de fleurs, il y avait beaucoup de cafés, de restaurants, de cinémas, de salles de sport, puis la nature autour était belle, et c'était une ville extrêmement privilégiée, où il était vraiment bon vivre, alors que partout ailleurs régnait la pénurie.
Parce que vous parlez de pénurie, c'est un système d'inégalité, le système soviétique, mais d'inégalité dissimulée. Vous racontez, parce que à fleur sans arrêt vos souvenirs de jeunesse, la cantine du ministre pour lequel a travaillé votre père.
Oui, c'est assez extraordinaire parce que, si vous voulez, l'inégalité a été dissimulée parce que elle était, enfin, les biens étaient attribués en fonction du rang de la personne. Dans ce ministère dont je parle, par exemple, et c'était pareil dans tous les autres ministères du système, était général. Il y avait une cantine pour, disons, les secrétaires qui avaient droit à du saucisson, des sandwichs au saucisson. Il y avait une cantine pour les rangs intermédiaires qui avaient droit au saumon. Pour les rangs encore plus élevés, des œufs de saumon, donc le caviar rouge. Pour les très hauts dignitaires du ministère, il y avait déjà du vrai caviar. Mais le ministre était obligé de manger tout seul dans son coin parce qu'il avait un menu auquel nul autre n'avait le droit. Vous voyez, c'est ça le système soviétique. Et donc, vous aviez toujours une incitation de franchir un rang, encore un rang, etc. Parce que, à chaque fois, vous aviez accès à plus de biens.
À Pipriat, la vie était relativement privilégiée, mais il était une autre petite agglomération, plus modeste, encore plus dissimulée, où les privilèges étaient plus grands. C'était celle où travaillait. Les ingénieurs et le personnel du radar, le Pic Vert.
En 1976, un signal radio terrorisa le monde occidental. Le monde entier connaît ce bruit sous le nom du Pic Vert russe. Et la plupart des gens l'associent à un radar transhorizon, le Douga, qui se trouve à Tchernobyl. Un monstre d'acier plus haut que les pyramides de Gizeh.
Certains disaient que c'était des antennes radio, d'autres que c'était des intercepteurs. On racontait tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'était vraiment ? Personne ne savait. Si on te dit que c'est interdit, alors c'est interdit. On n'avait pas le droit de poser des questions. Et pour demander quoi, si c'est pour être puni ensuite ?
Les travailleurs du radar Pic Vert logeaient dans une petite ville de 1000 habitants qui n'apparaissait pas non plus que le radar sur les cartes et qui s'appelait Tchernobyl 2. Alors quand vous écriviez à quelqu'un qui habitait Tchernobyl 2, vous écriviez rue, Kropoutsov, numéro 150. À Tchernobyl 1, les numéros s'arrêtaient à 148 et ça continuait à Tchernobyl 2.
Absolument, mais la vérité, c'est que vous ne pouviez pas écrire une lettre à quelqu'un qui habitait à Tchernobyl 2. C'était juste une sorte d'adresse officielle, vous voyez, pour, par exemple, leur envoyer des lettres officielles, des courriers, des choses comme ça. Mais personne n'avait droit de leur écrire. Si on leur écrivait, les lettres n'arrivaient pas. Et ils étaient vraiment presque en autarcie, c'est-à-dire même les contacts avec les proches de la famille étaient extrêmement restreints et il était très difficile pour quelqu'un qui travaillait dans cette ville fermée, par exemple, d'inviter sa vieille maman à passer quelques jours chez lui.
Le secret se paye plus tard. Le radar ne fonctionnait pas au moment de l'explosion de Tchernobyl parce qu'il était en réfection. On lui reprochait de troubler peut-être les liaisons aériennes civiles en Occident. Et une version complotiste dit maintenant que c'était pour dissimuler l'impossibilité de faire redémarrer ce radar malgré les travaux coûteux qu'un mauvais plaisant a déclenché l'explosion de Tchernobyl.
Ça, personnellement, je n'y crois pas trop.
Ah bon ?
Non, mais cette version est exposée dans un film assez amusant qui est sorti en 2015 de Chad Garcia. Oui.
Et vous trouvez d'ailleurs que le personnage principal a de beaux yeux bleus comme le prince Mishkin, parce que vous êtes amoureuse du prince Mishkin en même temps.
Je ne dirais pas que je suis amoureuse de prince Mishkin, mais c'est vrai que c'est une figure qui hante l'imagination collective, je dirais. Parce que c'est vraiment un personnage assez extraordinaire.
Celui dont on avait besoin en URSS. Il y a aussi la vieille ville de Tchernobyl. Et on ne sait pas, nous, que c'est une vieille communauté juive qui lui a donné une grande partie de son importance. C'était un port fluvial, c'était un nœud ferroviaire, mais c'était une grande ville du hassidisme, avec
Absolument.
Des dynasties de rabbins.
Absolument, c'était l'une des grandes dynasties hassidiques, donc le hassidisme comme mouvement de renouveau religieux juif est né en Ukraine. Et il y avait des dynasties autour des grandes figures, ce qu'on appelle des tzaddiks, des sages, qui avaient chacun une sorte de cour autour d'eux. Il y avait des fidèles qui affluaient, donc ils étaient aussi guérisseurs, ils étaient conseillers, ils étaient un peu tout, enfin, comme dans une secte. Et une des grandes sectes hassidiques, c'était la ville de Tchernobyl. C'est la dynastie des Tversky qui, après la Révolution, a émigré aux États-Unis.
Alors là, vous parlez du shtetl et de la vie pacifique qu'il a pu connaître ou souhaiter, en même temps à Tchernobyl, des pogroms. Autour de Tchernobyl, dans cette région très paysanne, la grande famine organisée par Staline. Et puis, pendant l'occupation allemande, la terre de sang et beaucoup de massacres.
Il y a beaucoup de massacres, comme partout. Alors, c'est intéressant qu'on a essayé un peu, en Ukraine aujourd'hui, d'occulter cette partie de l'histoire de Tchernobyl. Sur certains sites ukrainiens, on ne mentionne même pas qu'il y avait une communauté juive. Mais d'une part, je le savais, d'autre part, je suis allée retrouver les vestiges d'une synagogue. Il y a deux tombeaux de tzaddiks de Tchernobyl qui sont emmurés dans des structures en briques. Et il y a le cimetière. Et dans ce cimetière, il y a ce monument aux victimes, parce que les victimes, comme partout, vous savez, c'est la Shoah par balle, les victimes ont été rassemblées ensemble, il y avait quelques centaines de personnes, on ne connaît pas le nombre exact, qui ont été amenées donc vers une fosse commune où ils ont été massacrés. Et il y a juste un petit cube qui a été apparemment érigé encore à l'époque soviétique, cube en béton, qui dit que ici sont morts les citoyens soviétiques massacrés par les nazis. On ne dit pas que ce sont des juifs. Et en fait, on apprend seulement grâce à l'inscription aussi en hébreu que on comprend qu'il s'agit de juifs.
Étrange sarcophage pour les juifs. On n'a pas retrouvé de chants qui témoignent des dynasties hassidiques de Tchernobyl, mais celui-ci vient de Belz, c'est un chanteur polonais, Adam Ashton. Belz est en Ukraine maintenant, comme Tchernobyl, mais était en Pologne pendant l'entre-deux-guerres, qui chante son « Chez moi », les jeux avec les autres enfants, l'école telle qu'elle était.
Mein Städtele Bell, meine Heimele Wiecho, meine kindrische Jugend verbracht. Sind ihr amul gewesen in Bell, meine Heimele Bell, meine Heimele Wiecho, mit die Kinder durchgelaufen. Jeden Schabes pfleg ich laufen dort, mit dem fühl mich gleich. Sitzen hinter dem kleinen Beim alle, lernen bei dem Tag. Mein Städtele Bell, meine Heimele Wiecho gehabt, die schöne Halläume sassa. Mein Städtele Bell,
La Marche de l'Histoire, Jean Lebrun,
meine Heimele Bell,
sur France Inter.
Meine Heimele Wiecho gehabt, die schöne Halläume
Traversée de Tchernobyl, nous sommes avec Galia Ackermann qui publie un livre sous ce titre aux éditions Premier Parallèle. Galia Ackermann, vous avez longtemps séjourné à Tchernobyl ces dernières années où 4-5 000 personnes habitent par intermittence, jamais de manière permanente. Ce sont les gens qui travaillent à la sécurisation de la zone. Et vous étiez donc sans tenue de camouflage, alors qu'ils sont tous en tenue de camouflage.
Mais vous savez, cette tenue de camouflage, ça ne protège de rien du tout. C'est juste parce qu'ils ont droit à un uniforme, donc ils n'épuisent pas leurs propres vêtements. Ce qui est important, c'est de ne pas être trop ouvert, c'est-à-dire il faut bien se couvrir, voilà.
Vous voulez dire qu'il ne faut pas ouvrir trop la bouche parce que les esprits passent par la bouche dans les récits de science-fiction. Et là, c'est la même chose pour les particules.
Non, ce n'est pas la même chose pour les particules. En effet, il y a des particules surtout à Pripyat de plutonium. Et c'est quelque chose qui vraiment dépasse notre imagination parce que si vous inspirez ce qu'on appelle une particule chaude, une particule avec des radionucléides de plutonium, ça se loge dans vos poumons. Et ça reste là à provoquer une sorte de brûlure, peut-être éventuellement un cancer, etc. Mais ce qui défie l'imagination, c'est autre chose. C'est que le plutonium est un élément dont la durée de vie est immense. La demi-vie, c'est 24 000 ans. Et la disparition, disons, à un degré négligeable, c'est 240 000 ans. Ce qui fait que, par exemple, la ville de Pripyat... bien sûr, dans quelques milliers d'années, il ne restera aucune trace de cette ville. À sa place, peut-être, on va construire autre chose. On va creuser les fondations. Et à ce moment-là, les gens pourront encore réinspirer ces mêmes particules de plutonium.
Mais vous donnez l'impression de n'avoir pas peur. Vous avez quand même peur des loups et des sangliers. Il y en a beaucoup.
Non, mais écoutez, les loups, c'est peut-être plus anecdotique. J'ai pas vu de loups, mais j'ai vu des sangliers dans la ville de Tchernobyl parce que, comme la nature a beaucoup repris ses droits, et comme il n'y a pas beaucoup de chasse, il y a des braconniers quand même. Il y a parfois des troupeaux de sangliers qui traversent la ville de Tchernobyl.
Parlons de ceux, justement, qui vivent sans autorisation au-delà de la ville de Tchernobyl, dans la zone interdite. On les appelle les Samosioli. Si vous aviez quelques portraits à faire, vous commenceriez par les babouchkas.
Sûrement. sûrement. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut que je parle en deux mots de cette belle région qui s'appelle la Polésie et qui s'étend sur un territoire frontalier entre l'Ukraine, la Biélorussie et la Pologne, et qui a été considérée, et qui est toujours considérée comme la patrie des Slaves de l'Est. C'est-à-dire, comme c'est une région pauvre, où il y a beaucoup de hameaux isolés, les habitants de cette région ont gardé des coutumes souvent très anciennes. Par exemple, les ethnographes sont capables de distinguer, d'après la broderie, de quel village vient cette broderie. Et ces hommes et ces femmes, essentiellement les femmes, parce que les femmes ont une durée de vie généralement plus longue que les hommes, certaines parmi elles ont tenu à rester sur place, ou revenir malgré l'interdiction, dans des conditions assez atroces, parce que les premières années, il n'y avait même pas d'électricité, l'électricité a été coupée. Donc, elles sont revenues pour réoccuper leur maison, et elles étaient seules, avec leur potager, avec leur jardinet, avec leur champ, qu'elles cultivaient comme au Moyen-Âge, avec une lampe à pétrole le soir, sans eau courante, sans provisions. Et je pense que si elles ont tenu à braver toutes ces conditions de vie quand même difficiles, même pour les paysans c'est difficile, parce que au moins l'électricité, on est quand même habitué, c'est parce que préserver sa terre était aussi pour elles la possibilité de préserver leur identité.
Leur dignité, vous parlez de leur propreté irréprochable, de leur dignité innée. Et vous dites que ces femmes et aussi ces hommes de la paysannerie, ils avaient perdu tout ce qui leur parlait quand ils avaient été déplacés. Et en revenant dans la zone contaminée, ils choisissent paradoxalement la vie.
Oui, j'ai entendu ça souvent de la part de ces vieilles femmes qui disaient, voilà, moi je suis là dans des conditions que vous voyez et pourtant je suis encore en vie 25 ans ou 30 ans après l'accident, alors que mes voisins qui ont été évacués ensemble avec moi et qui ne sont pas revenus, ils sont déjà tous morts. Et je pense que c'est vrai, il y a probablement chez les paysans qui n'ont jamais auparavant quitté leur village, qui ne connaissent que ce bout de terre qu'ils cultivent et qu'ils aiment, un attachement viscéral à la terre. Et une fois qu'ils sont déplacés, même à quelques dizaines de kilomètres, qu'ils n'ont plus leur entourage, les objets avec lesquels ils ont grandi, etc., c'est comme si la vie était déjà finie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je parle dans le livre d'ethnographes qui essaient de collecter les vestiges de cette très ancienne culture paysanne. Et moi, je me suis toujours posé la question, comment se fait-il que parmi ces objets abandonnés que les ethnographes ont recueillis, se trouvent tant de photos de famille? Alors que quand vous voyez, par exemple, j'ai accompagné sur le site de la maison d'édition mon récit de quelques dizaines de photos, il y a des photos de ces vieilles femmes paysannes. Et on voit le cadre avec des photos de famille qui est
le sanctuaire des portraits derrière.
Voilà,
elle.
Qui est entouré d'une broderie comme un sanctuaire. Et donc, comment se fait-il qu'on abandonne ce sanctuaire? C'est tout simplement parce que la vie en exil n'a plus de sens pour elle.
Un portrait d'un autre de ces sommeliers qui, lui, ne manque pas de bagages scientifiques.
C'est le moment de manger les cerises. Sinon, les oiseaux et les abeilles vont s'en charger. D'ailleurs, il y en a déjà quelques-unes qui commencent à pourrir. On ne va pas les laisser aux oiseaux. L'année dernière, ils m'ont tout mangé, en deux jours. Le cerisier est très particulier. Il absorbe bien sûr le césium et le strontium, mais il n'y en a que des traces infimes dans la chair du fruit. Par contre, il y en a beaucoup dans le noyau. On peut donc manger le fruit, mais surtout bien recracher le noyau. Je mange les produits alimentaires de mon jardin. Dès que j'ai commencé à travailler dans ce laboratoire, j'ai analysé un à un tous les produits de mon jardin. L'oseille, la pomme de terre, le chou, les radis, les oignons, les tomates et les concombres. Je suis parvenu à des conclusions très précises. Ce qui m'a amené à retirer de mon jardin certains fruits et légumes comme le raisin, l'oseille, le cassis.
Et oui, Léonide Bogdadé, ici, dans le film Tchernobyl, une histoire naturelle, de Luc Riolon, il a dirigé un laboratoire de mesure de radioactivité et pourtant, il habite la zone interdite.
Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la zone, qui ont choisi de vivre dans la zone interdite, parfois en occupant des maisons d'habitants abandonnées. À Tchernobyl, dans la ville de Tchernobyl, il y a des maisons qui sont occupées et repeintes et retapées par des gens qui travaillent dans la zone, bien que ce ne soit pas légal. Parce que c'est un microclimat très chouette, parce que la nature est belle, parce que c'est vide, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être dans des grands espaces. Et ces gens, prennent des mesures comme celui-là, ou parfois ne prennent pas de mesures. Je connais aussi des gens qui ont choisi ce mode de vie, qui ne prennent pas de mesures, qui tout simplement vivent comme si de rien n'était et advienne que pourra.
C'est si chouette que vous avez imaginé, peut-être avec une journaliste française un peu allumée, d'acheter une maison là-bas.
Non, c'est elle qui me l'a proposé.
$500 ?
500 dollars, c'est toujours le prix, hein, vous pouvez toujours y aller.
Il y a des grands projets de l'Ukraine de réduire la zone interdite et de faire des expérimentations d'habitation pour des gens aventureux ou de transformation agricole dans la zone désinterdite.
Oui, il y a un projet du gouvernement ukrainien de réduire la zone à grosso modo l'énorme décharge nucléaire autour de la centrale, c'est-à-dire dans un rayon de 10 kilomètres, et de créer sur le reste de ce territoire ce qu'ils appellent réserve naturelle radio-écologique. Je trouve ça extrêmement drôle.
C'est là que vous auriez pu habiter, alors, Gabriel.
Oui, c'est là que j'aurais pu habiter, et je pense que dans la pratique, ça va peut-être donner un petit boom immobilier à Tchernobyl, parce que dans la ville, il y a des infrastructures, elle est relativement peu contaminée, et donc, pour des gens qui n'ont pas où se loger et qui veulent acheter une maison, bon, bien sûr, peut-être elle ne va pas coûter $500, mais peut-être ça va coûter quelques milliers de dollars. C'est quand même moins cher qu'ailleurs.
Il faut quand même des mesures de police appropriées, parce que vous avez rencontré nombre de clandestins. Vous parliez des braconniers. Vous avez passé une nuit un peu difficile avec un voleur de métal à grande échelle. Ceux qui trafiquent le bois vont aussi exporter du bois porteur de particules dans d'autres zones que celles de Tchernobyl. Il faut une surveillance pour combien de milliers d'années ?
Écoutez, pour les zones contaminées au plutonium, c'est, on peut dire, pour toujours, parce que ça dépasse complètement notre échelle. Pour ce qui est du césium et du strontium, je crois que dans 300 ans, ce sera possible d'y habiter tranquillement. Et maintenant, on peut aussi y habiter sans trop cultiver. C'est-à-dire, le projet maintenant, je ne sais pas s'il va se réaliser, c'est peut-être de créer quelques industries et d'occuper, réoccuper les terres. Je suis assez sceptique, parce que je pense que dans les villages qui ont été détruits, il n'y a pas d'infrastructure, c'est franchement pas profitable. Mais la ville de Tchernobyl, je pense qu'elle aura un petit avenir.
Merci à vous, Galia Ackermann. Votre livre Traversée Tchernobyl, c'est aux éditions Premier Parallèle. Cette émission a été préparée par l'équipe de La Marche de l'Histoire, avec à la réalisation Jacques Sigal, la préparation Franck Olivard, Frédéric Martin et Limka Negulesco.